Chronique du règne de Charles IX, chapitre 10, la chasse. Un grand nombre de dames et de gentilshommes, richement habillés, montés sur des chevaux superbes, s'agitaient en tous sens dans la cour du château. Le son des trompes, les cris des chiens, les bruyantes plaisanteries des cavaliers formaient un vacarme délicieux pour les oreilles d'un chasseur et exécrable pour toute autre oreille humaine. Mergy suivit machinalement son frère dans la cour et, sans savoir comment, il se trouva près de la belle comtesse, déjà masquée et montée sur un andalou fougueux qui frappait la terre du pied et mâchait son mort avec impatience. Mais sur ce cheval, qui aurait occupé toute l'attention d'un cavalier ordinaire, elle semblait aussi à son aise qu'assise sur un fauteuil dans son appartement. Le capitaine s'approcha, sous prétexte de resserrer la gourmette de l'andalou. « Voici mon frère, » dit-il à l'Amazone à demi-voix, mais assez haut cependant pour être entendu de Mergy. Traitez doucement le pauvre garçon. Il en a dans l'aile depuis un certain jour qu'il vous a vu au Louvre. « J'ai déjà oublié son nom, » répondit-elle assez brusquement. « Comment s'appelle-t-il ? » « Bernard. Remarquez-vous, madame, que son écharpe est de la même couleur que vos rubans ? » « Sait-il monter à cheval ? » « Vous en jugerez. » Il la salua et courut auprès d'une fille d'honneur de la reine, à laquelle il rendait des soins depuis quelque temps. À demi penché sur l'arçon de sa selle et la main sur la bride du cheval de la dame, il oublia bientôt son frère et sa belle et fière compagne. « Vous connaissez donc Comminges, monsieur de Mergy ? » demanda madame de Turgis. « Moi, madame, fort peu, » répondit-il en balbutiant. « Mais vous lui parliez tout à l'heure. » « C'était pour la première fois. Je crois avoir deviné ce que vous lui avez dit. » Et sous son masque, ses yeux semblaient vouloir lire jusqu'au fond de l'âme de Mergy. Une dame, en abordant la comtesse, interrompit leur entretien, à la grande satisfaction de Mergy, qui l'embarrassait prodigieusement. Toutefois, il continua de suivre la comtesse sans trop savoir pourquoi. Peut-être espérait-il causer ainsi quelque peine à Comminges, qui l'observait de loin. On sortit du château. Un cerf fut lancé et s'enfonça dans les bois. Toute la chasse le suivit. Et Mergy observa, non sans quelque étonnement, l'adresse de madame de Turgis à manier son cheval et l'intrépidité avec laquelle elle lui faisait franchir tous les obstacles qui se présentaient sur son passage. Mergy dut à la bonté du barbe qu'il montait de ne pas se séparer d'elle. Mais, à sa grande mortification, le comte de Comminges, aussi bien monté que lui, l'accompagnait aussi. Et malgré la rapidité d'un galop impétueux, malgré l'attention toute particulière qu'il mettait à la chasse, il parlait souvent à l'Amazone, tandis que Mergy enviait en silence sa légèreté, son insouciance et surtout son talent de dire des riens agréables qui, à en juger par le déplaisir qu'il en ressentait, devait amuser la comtesse. Au reste, les deux rivaux, animés d'une noble émulation, ne trouvaient pas de palissade assez haute, pas de fossé assez large pour les arrêter, et 20 fois ils risquèrent de se rompre le cou. Tout d'un coup, la comtesse, se séparant du gros de la chasse, entra dans une allée du bois, faisant un angle avec celle où le roi et sa suite s'étaient engagés. « Que faites-vous ? » s'écria Comminges. « Vous perdez la voix. N'entendez-vous point ? De ce côté, les corps et les chiens. Eh bien, prenez l'autre allée. Qui vous arrête ? » Comminges ne répondit rien et la suivit. Mergy fit de même, et quand ils se furent enfoncés dans l'allée de quelques 100 pas, la comtesse ralentit l'allure de son cheval. Comminges à sa droite et Mergy à sa gauche l'imitèrent aussitôt. « Vous avez là un bon cheval de bataille ?» « Monsieur de Mergy, » dit Comminges, « on ne lui voit pas une goutte de sueur. C'est un barbe qu'un Espagnol a vendu à mon frère. Voici la marque d'un coup d'épée qu'il a reçu à mon contour. » « Avez-vous fait la guerre ? » demanda la comtesse à Mergy. « Non, madame. » « Ainsi, vous n'avez jamais reçu d'arquebusade ? » « Non, madame. »
« Ni de coup d'épée ? »
« Non plus. » Mergy crut s'apercevoir qu'elle souriait. Comminges relevait sa moustache d'un air goguenard. « Rien ne sied mieux à un jeune gentilhomme, dit-il, qu'une belle blessure. Qu'en dites-vous, madame ? »
« Oui, si elle est bien gagnée. »
« Qu'entendez-vous par bien gagnée ? »
« Oui, une blessure est glorieuse, gagnée sur un champ de bataille. Mais dans un duel, ce n'est plus de même. Je ne connais rien de plus méprisable. »
« Monsieur de Mergy, je le présume, vous a parlé avant de monter à cheval. »
« Non, » dit sèchement la comtesse.
Mergy conduisit son cheval auprès de Comminges.
« Monsieur, lui dit-il tout bas, aussitôt que nous aurons rejoint la chasse, nous pourrons entrer dans un haut taillis, et là je prouverai, j'espère, que je ne voudrais rien faire pour éviter votre rencontre. »
Comminges le regarda d'un air où se peignait un mélange de pitié et de plaisir.
« À la bonne heure, je veux bien vous croire, répondit-il. Mais quant à la proposition que vous me faites, je ne puis l'accepter. Nous ne sommes pas des goujats pour nous battre tout seuls. Et nos amis, qui doivent être de la fête, ne nous pardonneraient pas de ne pas les avoir attendus.
« Comme il vous plaira, monsieur, » dit Mergy.
Et il se remit à côté de madame de Turgis, dont le cheval avait pris quelques pas d'avance sur le sien. La comtesse marchait la tête baissée sur sa poitrine et semblait tout entière à ses pensées. Ils arrivèrent tous les trois en silence jusqu'à un carrefour qui terminait l'allée dans laquelle ils s'étaient engagés.
« N'est-ce pas la trompe que nous entendons ? » demanda Comminges.
« Il me semble que le son vient de ce taillis à notre gauche, » dit Mergy.
« Oui, c'est bien le corps, j'en suis sûr maintenant, et même un corps de Bologne.
Dieu me damne, si ce n'est pas le corps de mon ami Pompignan. Vous ne sauriez croire, monsieur de Mergy, la différence qu'il y a entre un corps de Bologne et ceux que fabriquent nos misérables artisans de Paris. »
« Celui-ci s'entend de loin.
Et quel son ! Comme il est nourri ! Les chiens, en l'entendant, oublieraient qu'ils ont couru 10 lieues.
Tenez, à vrai dire, on ne fait rien de bien qu'en Italie et en Flandre. Que pensez-vous de se coller à la Wallonne ? Cela est bien séant pour un costume de chasse. J'ai des collets et des fraises à la confusion pour aller au bal. »
Mais ce collet, tout simple qu'il est, croyez-vous qu'on pourrait le broder à Paris ?
Point.
Il me vient de Broda. Si vous voulez, je vous en ferai venir par un de mes amis qui est en Flandre.
Mais, il s'interrompit par un éclat de rire. Que je suis distrait. Mon Dieu, je n'y pensais plus.
La comtesse arrêta son cheval.
Comminges, la chasse est devant vous. Et, à en juger par le corps, le cerf est aux abois.
Je pense que vous avez raison, belle dame.
Et ne voulez-vous pas assister au halali ?
Sans doute. Autrement, notre réputation de chasseur et de coureur est perdue.
Eh bien, il faut se dépêcher.
Oui, nos chevaux ont soufflé maintenant. Allons, donnez-nous le signal.
Moi, je suis fatigué, je reste ici. Monsieur de Mergy me fera compagnie. Allons, partez.
Mais, faut-il vous le dire deux fois ?
Piquez !
Comminges restait immobile. Le rouge lui monta au visage, et il regardait tour à tour Mergy et la comtesse, d'un air furieux.
« Madame de Turgis a besoin d'un tête-à-tête, » dit-il avec un sourire amer.
La comtesse étendit la main vers le taillis, d'où l'on entendait le son du corps, et lui fit du bout des doigts un geste très significatif. Mais Comminges ne paraissait pas encore disposé à laisser le champ libre à son rival.
« Il paraît qu'il faut s'expliquer clairement avec vous. Laissez-nous, monsieur de Comminges. Votre présence m'importune. Me comprenez-vous à présent ?»«
Parfaitement, madame, » répondit-il en fureur. Et il ajouta plus bas.
« Mais quant à ce beau mignon de Ruelle, il n'aura pas longtemps à vous amuser.
Adieu, monsieur de Mergy.
Au revoir.
Il prononça ces derniers mots avec une emphase particulière, puis, piquant des deux, il partit au galop. La comtesse arrêta son cheval, qui voulait imiter son compagnon, le remit au pas, et chemina d'abord en silence, levant la tête de temps en temps et regardant Mergy comme si elle allait lui parler, puis détournant les yeux, honteuse de ne pouvoir trouver une phrase pour entrer en matière. Mergy se crut obligé de commencer.
« Je suis bien fier, madame, de la préférence que vous m'avez accordée. »«
Monsieur Bernard, savez-vous faire des armes ?»«
Oui, madame, » répondit-il étonné.
« Mais je dis bien, très bien. »« Assez bien pour un gentilhomme, et mal sans doute pour un maître d'armes. » »«
Mais dans le pays où nous vivons, les gentilshommes sont plus forts sur les armes que les maîtres de profession. » »«
En effet. » J'ai entendu dire que beaucoup d'entre eux perdent dans les salles d'armes un temps qu'ils pourraient mieux employer ailleurs.
Mieux ?
Oui, sans doute. Ne vaut-il pas mieux causer avec les dames, dit-il en souriant, que de fondre en sueur dans une salle d'escrime ?
Dites-moi, vous êtes-vous battu souvent ?
Jamais, grâce à Dieu, madame.
Mais pourquoi ces questions ?
Apprenez pour votre gouverne. Qu'on ne doit jamais demander à une femme pourquoi elle fait telle ou telle chose. Du moins, tel est l'usage des gentilshommes bien élevés.
« Je m'y conformerai, » dit Mergy, en souriant légèrement et s'inclinant sur le cou de son cheval.
« Alors, comment ferez-vous demain ?»«
Demain ? » ?»«
Oui, ne faites pas l'étonner. »«
Madame, répondez-moi,
je sais tout, répondez-moi. » s'écria-t-elle en étendant la main vers lui avec un geste de reine.
Le bout de son doigt effleura la manche de Mergy et le fit tressaillir.
« Je ferai de mon mieux, » dit-il enfin. « J'aime votre réponse. Elle n'est ni d'un lâche, ni d'un spadassin. Mais vous savez que pour votre début, vous allez avoir affaire à un homme bien redoutable.
Que voulez-vous ? Je serai sans doute fort embarrassé. »
« Comme je le suis maintenant, » ajouta-t-il en souriant, « je n'ai jamais vu que des paysannes, et pour mon début à la cour, je me trouve en tête à tête avec la plus belle dame de la cour de France.
Parlons sérieusement. Comment j'ai la meilleure épée de cette cour, si fertile en coupe jarrée ?
Il est le roi des raffinés.
On le dit.
Eh bien, n'êtes-vous point inquiet ?
Je le répète, je ferai de mon mieux. » On ne doit jamais désespérer avec une bonne épée, et surtout avec l'aide de Dieu.
« L'aide de Dieu ? » interrompit-elle d'un air méprisant.
« N'êtes-vous pas huguenot, monsieur de Mergy ?»«
Oui, madame, » répondit-il gravement, selon son ordinaire, à pareille question.
« Donc, vous courez plus de risques qu'un autre.
Et pourquoi ?»
Exposer sa vie n'est rien, mais vous exposez plus que votre vie, votre âme.
Vous raisonnez, madame, avec les idées de votre religion. Les miennes sont plus rassurantes.
Vous allez jouer un vilain jeu, une éternité de souffrance sur un coup de dé, et les six sont contre vous.
Dans tous les cas, il en serait de même, car si je mourais demain catholique, je mourrais en péché mortel.
Oh, « il y a fort à dire, et la différence est grande !» s'écria-t-elle, piquée de ce que Mergy lui opposait un argument tiré de sa propre croyance.
« Nos docteurs vous expliqueront. »«
Oh, sans doute, car ils expliquent tout, madame. Ils prennent la liberté de changer l'évangile suivant leur fantaisie. Par exemple,
laissons cela. On ne peut causer un instant avec un huguenot sans qu'il ne vous cite à tout propos les saintes écritures. »
C'est que nous les lisons, tandis que vos prêtres même ne les connaissent pas.
Mais, changeant de sujet, croyez-vous qu'à l'heure qu'il est, le cerf soit pris ?
Vous êtes donc bien attaché à votre religion ?
C'est vous qui commencez, madame.
Vous la croyez bonne ?
Bien plus.
Je la crois la meilleure, la seule bonne, sinon j'en changerais.
Votre frère en a bien changé.
Il avait ses raisons pour devenir catholique. J'ai les miennes pour rester protestant. Ils sont tous obstinés et sourds à la voix de la raison, s'écria-t-elle avec colère.
« Il pleuvra demain, » dit Mergy en regardant le ciel.
« Monsieur de Mergy, l'amitié que j'ai pour votre frère et le danger que vous allez courir m'inspirent de l'intérêt pour vous. »
Il s'inclina respectueusement. « Vous autres, hérétiques, vous n'avez point foi aux reliques ?»
Il sourit.
« Et vous vous croiriez souillés en les touchant ?» continua-t-elle.
« Vous refuseriez d'emporter, comme nous autres catholiques romains, nous avons l'usage de le faire ?»«
Cet usage nous paraît, à nous autres, au moins inutile. » »«
Écoutez, un de mes cousins attacha une fois une relique au cou d'un chien de chasse. Puis, à 12 pas de distance, il lui tira une arquebusade chargée de chevrotines.
Et le chien fut tué.
Pas un plomb ne l'atteignit.
Oh, voilà qui est admirable. Je voudrais bien avoir une semblable relique.
Vraiment ? Vous la porteriez ?
Sans doute, puisque la relique défendait un chien. À plus forte raison.
Mais, un instant, est-il bien sûr qu'un hérétique vaille autant que le chien d'un catholique ? S'entend.
Sans l'écouter, Madame de Turgis déboutonna promptement le haut de son corps étroit. Elle tira de son sein une petite boîte d'or très plate, attachée par un ruban noir.
« Tenez, » dit-elle, « vous m'avez promis de la porter. Vous me la rendrez un jour. »
« Si je le puis, certainement.
Mais écoutez, vous en aurez soin. Pas de sacrilège. Vous en aurez le plus grand soin. »
« Elle vient de vous, madame. »
Elle lui donna la relique, qu'il prit et passa autour de son cou. Un catholique aurait remercié la main qui lui donne ce saint talisman.
Mergy se saisit de sa main et voulut la porter à ses lèvres.
« Non, non, il est trop tard. »
« Songez-y bien. Peut-être n'aurai-je jamais telle fortune. »«
Ôtez mon gant, » dit-elle en lui tendant la main.
En ôtant le gant, il crut sentir une légère pression. Il imprima un baiser de feu sur cette belle et blanche main.
« Monsieur Bernard, » dit la comtesse d'une voix émue, « serez-vous entêté jusqu'à la fin, et n'y a-t-il aucun moyen de vous toucher ? Vous convertirez-vous enfin grâce à moi ?»«
Mais je ne sais, » répondit-il en riant.
« Priez-moi bien fort et bien longtemps.
Ce qu'il y a de sûr, c'est que nul autre que vous ne me convertira.
Dites-moi franchement, si une femme, là, qui aurait su... »
Elle s'arrêta. « Qui aurait su ? » ?»«
Oui. Est-ce que l'amour, par exemple ? Mais soyez franc, parlez-moi sérieusement. »
« Sérieusement ? » Et il cherchait à reprendre sa main.
« Oui.
Est-ce que l'amour que vous auriez pour une femme d'une autre religion que la vôtre,
est-ce que cet amour ne vous ferait pas changer ?
Dieu se sert de toutes sortes de moyens.
Et vous voulez que je vous réponde franchement et sérieusement ?
Je l'exige. »
Mergy baissa la tête et hésitait à répondre. Dans le fait, il cherchait une réponse évasive. Madame de Turgis lui faisait des avances qu'il ne se souciait pas de rejeter. D'autre part, comme il n'était à la cour que depuis quelques heures, sa conscience de province était terriblement pointilleuse.
« J'entends le halali !» s'écria tout d'un coup la comtesse, sans attendre cette réponse si difficile. Elle donna un coup de houssine à son cheval et partit au galop sur le champ. Mergy la suivit, mais sans pouvoir en obtenir un regard, une parole. Ils eurent rejoint la chasse en un instant. Le cerf s'était d'abord lancé au milieu d'un étang, d'où l'on avait eu quelque peine à le débusquer. Plusieurs cavaliers avaient mis pied à terre et, s'armant de longues perches, avaient forcé le pauvre animal à reprendre sa course. Mais la fraîcheur de l'eau avait achevé d'épuiser ses forces. Il sortit de l'étang haletant, tirant la langue et courant par bonds irréguliers. Les chiens, au contraire, semblaient redoubler d'ardeur. À peu de distance de l'étang, le cerf, sentant qu'il lui devenait impossible d'échapper par la fuite, parut faire un dernier effort, et, s'acculant contre un gros chêne, il fit bravement tête au chien. Les premiers qui l'attaquèrent furent lancés en l'air, éventrés. Un cheval et son cavalier furent culbutés rudement. Hommes, chevaux et chiens, rendus prudents, formaient un grand cercle autour du cerf, mais sans oser en venir à portée de ses andouillés menaçants. Le roi mit pied à terre avec agilité et, le couteau de chasse à la main, tourna adroitement derrière le chêne et d'un revers coupa le jarret du cerf. Le cerf poussa une espèce de sifflement lamentable et s'abattit aussitôt. À l'instant, 20 chiens s'élancent sur lui. Saisi à la gorge, au museau, à la langue, il était tenu immobile. De grosses larmes coulaient de ses yeux.
« Faites approcher les dames !» s'écria le roi.
Les dames s'approchèrent. Presque tout était descendu de leur monture.
« Tiens, parpaillot !»
dit le roi en plongeant son couteau dans le côté du cerf, et il tourna la lame dans la plaie pour l'agrandir. Le sang jaillit avec force et couvrit la figure, les mains et les habits du roi. Parpaillot était un terme de mépris, dont les catholiques désignaient souvent les calvinistes. Ce mot et la manière dont il était employé déplurent à plusieurs, tandis qu'il fut reçu par d'autres avec applaudissements.
« Le roi a l'air d'un boucher !»
dit assez haut et avec une expression de dégoût le gendre de l'amiral, le jeune Téligny. Des âmes charitables, comme il s'en trouve surtout à la cour, ne manquèrent pas de rapporter la réflexion au monarque, qui ne l'oublia pas. Après avoir joui du spectacle agréable des chiens dévorant les entrailles du cerf, la cour reprit le chemin de Paris. Pendant la route, Mergy raconta à son frère l'insulte qu'il avait reçue et la provocation qui en avait été la suite. Les conseils et les remontrances étaient inutiles, et le capitaine lui promit de l'accompagner le lendemain.